Poète ou à papier?
Ah, autant demander à un chien sa carte bancaire. Bonsoir. Cette nuit, Poète vos papiers, autant demander à un chien sa carte bancaire, s'interroge sur la pauvreté. La pauvreté? Confronter la poésie à une problématique aussi crue n'est-elle pas un non-sens? Surtout que lorsqu'on évoque la question de la pauvreté grandissante aujourd'hui dans notre pays, il est difficile de trouver des mots qui ne communiquent pas une sensation immédiate de lassitude, le sentiment de quelque chose de déjà trop entendu, sur lequel nous ne savons comment agir. Mais le poète ne se lasse pas de réinventer les mots justes. Le poète est fait de chair, la sienne et celle des autres. Ses mots sont le reflet de son regard sur le monde, de son empathie avec le monde. Et ce n'est pas un hasard si le titre même de cette émission « Poète vos papiers, autant demander à un chien sa carte bancaire » tourne en dérision la carte bancaire, ce signe de l'avoir et non de l'être. Les poètes n'auraient-ils donc pas de carte bancaire? Les poètes échapperaient-ils à cet assujettissement de soi à l'argent? Non, bien sûr. La contrainte du réel nous tient tous dans son étau. Mais ce n'est pas la question. Ici, la question est « Que nous disent les poètes sur la pauvreté ?» Que nous aide-t-il à comprendre sur ses implications dans l'âme du monde et de chacun? Nous cheminerons avec Pierre Tillemann durant cette émission avec des extraits de son livre « C'est l'histoire d'un type ». À la fin de l'émission, je donnerai des informations plus précises sur la vie et les œuvres des auteurs dont nous allons écouter les textes. C'est l'histoire d'un type qui était couché dans l'escalier du métro. La foule s'engouffrait dans la station. Les gens lui marchaient dessus. Le corps de l'homme prenait la forme des marches. Il n'avait plus de peau. Ses muscles et ses nerfs étaient dessinés en noir et blanc. C'était une affiche collée par terre. C'est l'histoire d'un type qui avait ramené la destinée de l'homme à la recherche du profit, de l'argent et du sommeil confortable. Il s'était entouré de quantités de choses qui avaient fini par faire la trame même de son existence. Il ne possédait rien. Il méritait la catastrophe qui le guettait. C'est l'histoire d'un type qui avait toujours besoin d'argent. Quelques-uns peuvent gagner en peu de temps de grosses quantités d'argent, mais lui, il faisait partie de ces gens qui n'en gagnent que de petites quantités. Alors c'était normal. Il avait toujours besoin d'argent. Nous écoutons « T'en souviens-tu » de Gérald Gaudin sur une musique de Jules. T'en souviens-tu, Gaudin, à cette heure que t'es député? T'en souviens-tu de l'homme qui frissonne, qui attend l'autobus du petit matin, après son chiffre de nuit? T'en souviens-tu des malpris qui sont sur le bien-être, de celui qui couche dans la neige, des trop vieux pour travailler, qui sont trop jeunes pour la pension, des mille métiers et mille misères, l'amiantosé, le cotonisé, le bicinosé, le silicosé, celui qui tousse sa journée, celui qui crache sa vie, celui qui s'arrache les poumons, celui qui râle dans sa cuisine, celui qui se plogue sur sa bonbonne d'oxygène. Il n'attend rien d'autre que le bon Dieu vienne le chercher. T'en souviens-tu? Des pousseurs de mop, des ramasseurs d'urine dans les hôpitaux, ceux qui ont deux jobs, une pour la nuit, une pour le jour, pour arriver à se bûcher une paix comme du monde. T'en souviens-tu, Gaudin, qu'il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce qu'on fera demain? Métro Bastille de Pierre Tillemann sur une musique de Ramona Ponzini, Eli Ranaldo. Puisque j'avais rendez-vous chez Gérard Fromanger, rue de la Roquette, j'ai pris le métro au château de Vincennes pour descendre à Bastille. Et là, dès le début, je suis tombée sur un type, assis, avec le pull relevé jusqu'aux cheveux, qui cachait complètement son visage. Il était si maigre, fou, recroquevillé. J'ai changé de voiture, pour ne plus l'avoir sous les yeux. Et puis, à la station d'après, une femme édentée, et un type qui gueulait, sur le quai. Et puis à Nation, une femme sans force, immobile, qui n'a pas bougé pendant que le métro était arrêté, et qui regardait droit devant elle, sans rien voir, avec ses yeux fous, morts de fatigue, et qui s'est décidée à monter juste au moment où le métro démarrait. Elle ne parvenait même pas à ouvrir la portière, et le conducteur a stoppé la rame. Et elle s'est assise, et aussitôt endormie. Et au bout d'une minute, son corps était complètement cassé en deux et menacé de tomber à chaque accélération. Et puis à Bastille, des jeunes mecs dans les couloirs, clodo, largués baratineurs, l'air malin pour survivre. Et toujours à Bastille, au bas de l'opéra, trois types assis en rang d'oignon avec une bouteille sur une marche grise d'un escalier gris dans un recoin glacé. Ah, j'oubliais, gare de Lyon. Un type d'environ 25 ans était monté pour crier dans la voiture qu'il n'avait pas mangé depuis hier et qu'il crevait de faim. Je suis en train de crever de faim. Et il est passé entre nous, fou. Misère qui ose à peine être folle, menaçant et inoffensif. La moitié de lui cassée ailleurs. Et seule une femme noire lui a donné quelque chose, lui a fait la charité. Assis à côté de moi, mon voisin, qui était noir également, lisait des notes de cours rédigées à la main dans un grand classeur. J'ai discrètement déchiffré. Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui en est trois en un. Je suis finalement arrivée chez Gérard Fromanger. Je suis restée un long moment silencieux, en regardant ses derniers tableaux. Durs, tragiques, des couleurs sourdes, lits de vin sanglants. De Lydie Salvert, des extraits de Contre, sur une musique de Chris Chanette, suivie d'une musique de Mogwai.
Écoutez.
Dans la République d'où je viens, les hommes considèrent que l'âme est distincte du corps et lui est inférieure. Le corps, ayant sur elle cet avantage énorme de soutenir les vêtements, lesquels soutiennent les poches, lesquels soutiennent les portefeuilles, et parfois un calibre 25, dont personne d'ici-bas ne va nier l'utilité. Dans la République d'où je viens, les pauvres sont conduits par pure humanité, dans des lieux écartés du cœur marchand des villes, où foisonnent les richesses. Car les puissants qui règnent sur la République d'où je viens ont ce noble souci d'épargner à leurs pauvres les tentations futiles et les tombons combien inutiles et cruels qu'engendre la convoitise. Dans la République d'où je viens, on ne mégote pas sur le bon sentiment. Dans la République d'où je viens, le chef de police, dont l'ardeur et le zèle ne vacillent jamais, a conçu de poser sur le pourtour des maisons riches des pièges à délinquants qui se referment, clac, aussitôt qu'effleurés. N'est-ce pas malicieux? Dans la République d'où je viens, dans la rue, le spectacle est frappant. Nul ne prie et nul ne se recueille. On ne sait que courir et courir et courir. Et si un tel, soudain, est pris du désir fort de s'allonger sur le trottoir parce que tout lui fait mal, de méditer sa vie en regardant les ombres, de parler à ses spectres et à ses disparus, de reposer son âme pour y creuser un rêve, ou plus modestement de pisser contre un mur, il sera illico chassé par les équipes de voirie, lesquelles affublées de pompes et de balais, enlèvent prestement papier gras, détritus, mendiants, rêveurs et philosophes, puis jettent le tout à la décharge, ou à l'hospice, c'est ce genre. On ne plaisante pas dans ce pays, avec la propreté.
Le dernier fou est mort. Et le dernier amant. Le dernier fou est mort. Le dernier animal. Le dernier fou est mort. Le dernier malfaiteur. Le dernier fou est mort. Et le dernier enfant. Le dernier fou est mort. Le dernier ennemi. Le dernier fou est mort. Le dernier musicien. Le dernier fou est mort. Et le dernier artiste. Le dernier fou est mort. Le dernier à dire non.
Le pays est nickel, Rachel. Nickel. Dites, assez rigolé. Dites, je contre. Je contre. Je suis contre. Contre les braves vengeurs, les féroces soldats, les armes, les armées, les marches au pas, les marches droits. Contre les lamentos, les cœurs sanguinolents et la pitié, cette putain. Contre ce qui nous brise et que nous étreignons. Contre nos vies ployées. Contre les porcs qui les piétinent et les poicres repus qui les broient. Contre les oreillers qu'on nous plaque sur la gueule. Contre les promoteurs de paradis parfaits, l'ordure parfumée. Contre la veulerie infernale des foules. Contre les rancœurs, les rancunes. Contre notre bêtise. Les enfants qu'on arme, les traîtres qu'on lèche. L'amour qu'on s'inflige, l'amour qu'on mesure avec parcimonie. Une dose, et ça suffit. Contre les sifflements qui accueillent les anges. Contre tous les crachats jetés sur la beauté. Contre les hargnes doctes et les joies foudroyées, le bonheur qu'on extorque, les fins réglementées, l'espoir dont on se shoote, contre ce qui affaiblit, contre ce qui agenouille, contre le rire hideux qui moque la beauté, contre la marque infâme que portent les paumés au revers de leur veste, éjecte, y est écrit en lettres invisibles, contre la pensée rase, la raison qui dessèche, les logiques qui tuent. Contre les chemins gris où nous sommes poussés, les journées à remplir, à chier, nos destins assurés par un courtier de choc appelé Monsieur Chance. Contre les divertissements qui nous couvrent de honte, sans me viennent à l'esprit. Contre l'aigle gravé au front des monuments, contre les monuments voués aux morts pour rien. Contre les morts pour rien. Contre les oraisons fielleuses des dévots, le suaire glacé qu'ils posent sur la vie, leur sainte queue, leur cœur si pur. Contre ceux-là qui disent pureté avec un couteau à la bouche. Contre ceux-là qui disent froid alors qu'ils n'ont jamais tremblé. Contre ceux-là qui disent contre alors qu'ils n'ont jamais contré. Dites contre. Je contre. Je contre.
Et maintenant, combien ça coûte? De Pascal Perrault sur une musique de Bruno Le Thor. Deux quinquagénaires au fond d'une cave, violant une enfant nue et terrifiée, s'étend, tandis que la caméra tourne. Combien ça coûte et combien ça rapporte? Arracher des arbres trois fois centenaires, déforester, désertifier l'Afrique, pour que des soi-disant civilisés bavent devant leurs meubles en pois tropicaux et se plaignent de ces immigrés dont on a rendu les terres invivables et qui osent venir chez nous mendier un soupçon d'oxygène. Combien ça coûte et combien ça rapporte? Bouleverser les écosystèmes, prôner la paix en fomentant les guerres, le sida et la pauvreté et le cancer en millions d'exemplaires par abandon des forêts africaines. Combien ça coûte et combien ça rapporte? Questions insensées et qui vous révulsent, que seul un fou peut poser, dites-vous. Mais un démon, de ceux qui hantent vos cauchemars et vos faits divers, ne cherche pas à tirer bénéfice de sa folie, il la vit jusqu'au bout. Il n'est dangereux que pour quelques-uns. L'homme qui pose ces questions est dangereux pour tous. Il est glacé, rationnel, aligne sans fin ses colonnes où l'être humain n'existe pas. Rien que des chiffres, pertes et gains, et ces questions, il y répond pour vous. Et vous rejetez la fièvre qu'il répand dans ses humeurs les plus malsaines, mais glorifiez la maladie. L'homme est en solde, profitez-en. Sa peau, ses rêves, ses idéaux, son bradé à prix sacrifié. La misère est cotée en bourse. Investissez dès maintenant. Qu'un être perde sa substance pour à peine pouvoir survivre vous apparaît sain et normal. Alors le capitalisme, le clientélisme triomphant poseront leurs pieds sur vous. Ce sont eux qui posent les questions et donnent l'horrible réponse. La vie d'un homme, ça coûte peu et ça peut rapporter beaucoup. C'est l'histoire d'un type qui, alors qu'il était jeune, avait été pris par une sorte de résignation soudaine devant l'existence. Il avait renoncé et décidé qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire, travailler. C'est l'histoire d'un type qui faisait toutes sortes de choses gratuites et sans utilité directe. C'était sa façon de ne pas adhérer au consensus, de vieillir peu et de ne pas trop mourir. C'est l'histoire d'un type qui était un miroir. Il était une musique de fond, un décor. Il était un écran. Il était un meuble avec des organes, capable de survivre et de se reproduire. C'est l'histoire d'un type qui, peu à peu, gravissait les barreaux de l'échelle sociale. Au fond de lui, il s'en foutait des barreaux. Mais sa vie était faite de barreaux. Alors, il les gravissait. Nous restons avec Pierre Tillemans pour Le Frigo, la télé, sur une musique de Anthony Pateras. J'ai ouvert le frigo. La lumière était froide. Regardez un bout de viande, violet, les remis dedans. Je pensais aux animaux, aux vaches, avec leurs yeux très doux, à l'herbe si verte qui bouge sur la terre marron. Et pensais aux cadavres, aux carcasses, aux bulldozers qui poussent les carcasses. Et penser au fric, au business aveugle, à la connerie brutale du fric, qui est la guerre minable dans nos vies, au pouvoir et à la domination, qui sont la guerre minable dans nos vies, au sexe, lié au pouvoir et à la domination. J'ai ouvert la télé. La lumière était froide. Regardez un bout de sport. Professionnel. Vénus Kurigata nous dit « Nous étions sept » sur une musique d'Andy Emler à l'orgue et Benat Achari à la voix. Nous étions sept, partant de véhémence et de promiscuité. Cinq enfants et deux platanes aux bras raccourcis. La première neige tombait du front de la mer, mouillait son corsage, plein à craquer de noix creuses et de nos cris. La mer portait son chagrin sur sa paume et soufflait dessus. Elle profitait de notre sommeil pour déplacer la montagne face à la fenêtre, nous offrait un peu de planète et de dépaysement. Déplacer la montagne, mais pas le vent. La mer ne connaissait pas le nom du vent, ni sa consistance. Ses mains, vouées à la fourche, à la pelle, creusant sans cesse le même sillon de sa gorge à la clôture du champ. Ses mains ne lui appartenaient pas lorsqu'elle traînait la tempête par le licou, l'attachait à l'ombre du cheval, debout sur son hennissement. C'est l'histoire d'un type qui avait fini par être admis dans la tribu des réussis. Mais cependant, il était resté un perdant clandestin. Il avait conservé en secret tous nos rites et nos coutumes de ratés. C'est l'histoire d'un type qui se disait que c'était foutu pour lui et qu'il ne serait jamais que ce qu'il était. C'est l'histoire d'un type qui se chuchotait à lui-même « Fous le camp, connard. Tire-toi vite d'ici pendant qu'il est encore temps. » C'est l'histoire d'un type qui était victime d'une injustice. C'est l'histoire d'un type, ce qui lui manquait, il s'en passait. Et voilà tout. C'est l'histoire d'un type qui acceptait volontiers l'argent des gens riches, car ils en avaient beaucoup et lui n'avait rien. Maintenant, de Umberto à Cabal, et personne ne nous voit, suivi de Je ne sais pas, sur une musique de Brancusi. La flamme de notre sang brûle, inextinguible, malgré le vent des siècles. Silencieux, je chante étouffé, la misère dans l'âme et la tristesse assiégée. Aïe, je veux pleurer à cris. Les terres qu'il nous laisse sont les versants. Les pentes des coteaux. Peu à peu, les orages lavent la terre et l'entraînent dans la vallée qui n'est plus à nous. Et nous, nous voilà debout sur le bord du chemin avec le regard cassé par une larme et personne ne nous voit. Mon village m'a vu partir en silence. La ville avec son vacarme ne s'est même pas aperçue de mon arrivée. J'ai laissé ma condition de paysan pour prendre celle d'ouvrier. Je ne sais plus si j'ai avancé ou si j'ai reculé. Voilà Henri Michaud. Agir, je viens. Sur une relecture de Eugène Cicero, de La Passion selon saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach, par Eugène Cicero, Peter White, Charlie Antolini. Poussant la porte en toi, je suis entrée. Agir, je viens. Je suis là, je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon, tu n'es plus en difficulté. Ficelle déliée, tes difficultés tombent. Le cauchemar d'où tu revins, hagard, n'est plus. Je t'épaule. Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin, qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise. Je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. Afflue, afflue en palme sur le cercle des images de la purée. Afflue sur les neiges de sa pâleur. Afflue sur son âtre. Et le feu s'y ranime. Agir. Je viens. Tes pensées d'élan sont soutenues. Tes pensées d'échec sont affaiblies. J'ai ma force dans ton corps, insinuée. Et ton visage, perdant ses rides, est rafraîchi. La maladie ne trouve plus son trajet en toi. La fièvre t'abandonne. La paix des voûtes, la paix des prairies florissantes, la paix rentre en toi. Au nom du nombre le plus élevé, je t'aide. Comme une fumerole s'envole tout le pesant de dessus tes épaules accablées, les têtes méchantes d'autour de toi observatrice vipérine des misères des faibles, ne te vois plus, ne sont plus. Équipage de renfort, en mystère et aux lignes profondes, comme un sillage sous-marin, comme un chant grave, je viens. Ce chant te prend, ce chant te soulève, ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux, ce chant est nourri par un Niagara calmé, ce chant est tout entier pour toi. Plus de tenailles, plus d'ombre noire, plus de crainte, il n'y en a plus trace, il n'y a plus à en avoir. Où étaient peines et ouates, où étaient éparpillements et soudures, où étaient infections et sang nouveau, où étaient les verrous et l'océan ouvert, l'océan porteur et la plénitude de toi. Intact, comme un œuf d'ivoire. J'ai lavé le visage de ton avenir. C'est l'histoire d'un type qui se disait que pour s'en tirer, il faut être intelligent. C'est dur, on est comme on est. Et en plus, il faut être intelligent. C'est l'histoire d'un type qui ne voulait ni le confort, ni la sécurité. C'est l'histoire d'un type pour qui son boulot était la chose la plus importante du monde. S'il perdait son boulot, il était foutu. Il n'avait plus qu'à crever, seul, sans rien. C'est l'histoire d'un type qui se disait que 300 francs, c'est pas la mer à boire. Mais quand on les a pas, on les a pas. C'est l'histoire d'un type qui avait les pieds glacés. Il n'était pas assez chaudement vêtu. C'est l'histoire d'un type qui était enfin complètement libre de réaliser ses propres projets. Le problème, c'est qu'il n'en avait aucun. Merci, nous dit Francis Gyok, sur une musique de Pierre Jodlowski. Merci pour l'amour refusé, la plénitude jamais accordée, l'abondance ignorée. Merci pour les nuits d'errance et d'abrutissement dans l'alcool. Merci pour l'horreur de la maladie. Merci pour les sourires narquois, les ricanements, les sarcasmes, le mépris, la haine, l'indifférence. Merci pour les aveux mensongers, les caresses mondiées, les chutes dans l'océan de la nuit. Merci pour les portes toujours closes. Merci pour les yeux vitrifiés par les larmes. Merci pour la bouche écrasée qui jamais plus ne s'ouvrira sur un aveu. Merci pour les mains disjointes qui ont perdu le chemin des caresses. Merci pour l'apaisement qui jamais n'arrive. Merci pour tous ceux qu'on dérive vers l'archipel du désespoir. Merci pour tes yeux, miroir de mon dénuement. Merci pour les râles et les cris arrachés à la bouche des suppliciés. Merci pour la mort qui jette sa défroque sur les épaules de l'enfant malade. Merci pour les promesses jamais tenues, la tendresse repoussée. Merci pour les compagnons de clinique qui se sont suicidés. Merci pour ceux qui errent dans le vent de l'épouvante. Merci pour les parias enfouis dans les replis du désespoir. Merci pour les jours de torture. Merci pour l'oasis interdite, l'ombre et la nuit largement dispensées. Merci pour les crachats, la générosité tournée en dérision. Merci pour l'implacable malédiction qui pèse sur moi comme sur tant d'autres. Il a fallu trouver refuge au-delà de la mort, entre les pages de la nuit, où s'inscrivent encore par on ne sait quelle dérision, des noms impossibles à oublier, pas des noms, des plaies, des aveux arrachés au ventre de la terre, le temps d'une morsure, d'un spasme, d'une allégresse tronquée, puis la fuite. Se taire, se figer, s'emmurer, se momifier dans le silence des dunes. On se laisse glisser parmi les algues, dans un monde enfin silencieux. Mais ce n'est pas la paix, ce n'est jamais la paix nulle part, ni dans la chambre close, ni dans ce lit des fées qui ressemble soudain à un piège, où la mort rassemble les pièces de son misérable échiquier. Briser l'écorce du désespoir, desserrer l'étau du gel, disperser l'ombre ou crever dans les plis de la terre humide qui monte à ma rencontre du plus profond de la nuit. On ne veut plus, on ne peut plus passer son temps à repousser, bafouer, déchirer, mépriser, arracher, piétiner, massacrer, haïr. On ne peut plus passer son temps à gueuler avec l'insistance imbécile de celui qui croit encore être entendu. C'est l'histoire d'un type qui, à tâtons, composait un numéro de téléphone. C'était celui des secours d'urgence. C'est l'histoire d'un type qui était épouvanté à l'idée qu'un autre voulait lui faire du mal, l'abattre par terre, lui voler son argent, sa santé, sa vie, le tuer. C'est l'histoire d'un type qui baisait une pute debout, le pantalon sur les genoux, dans un terrain vague, plein de merde et de papier gras. C'est l'histoire d'un type qui était la version standard d'un autre type. C'est l'histoire d'un type qui avait perdu beaucoup de choses en devenant civilisé. C'est l'histoire d'un type qui était une pièce détachée dans un tas de choses rembourrées. Nous retrouvons Henri Michaud, qu'il repose en révolte, sur une musique du lieutenant Caramel. Dans le noir, dans le soir, sera sa mémoire, dans ce qui souffre, dans ce qui suinte, dans ce qui cherche et ne trouve pas, dans le chalon de débarquement qui crève sur la grève, dans le départ sifflant de la balle traceuse, dans l'île de soufre, sera sa mémoire, dans celui qui a sa fièvre en soi, à qui n'importe les murs, dans celui qui s'élance et n'a de tête que contre les murs, dans le larron non repentant, dans le faible à jamais récalcitrant, dans le porche éventré, sera sa mémoire, dans la route qui obsède, dans le cœur qui cherche sa plage, dans l'amant que son corps fuit, dans le voyageur que l'espace ronge, dans le tunnel, dans le tourment tournant sur lui-même, dans l'impavide qui ose froisser le cimetière, dans l'orbite enflammée des astres qui se heurte en éclatant, dans le vaisseau fantôme, dans la fiancée flétrie, dans la chanson crépusculaire, sera sa mémoire, dans la présence de la mer, dans la distance du juge, dans la cécité, dans la tasse à poison, dans le capitaine des sept mers, dans l'âme de celui qui lave la dague, dans l'orgue en roseau qui pleure pour tout un peuple, dans le jour du crachat sur l'offrande, dans le fruit d'hiver, dans le poumon des batailles qui reprennent, dans le fou dans la chaloupe, dans les bras tordus des désirs à jamais inassouvis, sera sa mémoire. Écoutons de Roger Bordier, Partage des biens, sur une musique de Vincent Bergeron. Voleurs de continents, surveillez le butin, Mais attention, nous gardons le reste, tout le reste. L'étoile du berger, la chanson du passant, la ruelle et le silence, tous les abécédaires, tous les lits de la sieste, et la page imprimée, et le dahlia fleuri, les portraits en guitare, le vent chargé d'épines où se préparent les roses, la source sous le pré, une aile, afin d'éparpiller toute l'eau des vitres. Pour cette mémoire de sable, la nue géographie, nos forêts, où se perdront vos commandements, et la place publique, et nos communs chantiers, tant de palais construits des ombres de nos pas, contre vous, contre les faux saltimbanques, les vrais patrons de banque, les lutteurs forains de la métaphysique, vous et votre monde où l'on frime, où l'on trime, où l'on brime, votre monde à la renverse, à l'inverse, à la déverse, à la traverse, à la vacuum, l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est l'histoire d'un type qui, après des affaires florissantes, connaissait de sérieuses difficultés. C'est l'histoire d'un type qui n'avait d'autre motivation que son intérêt personnel et cynique. C'est l'histoire d'un type qui sentait ses genoux vaciller. C'est l'histoire d'un type qui possédait l'arrogance, l'assurance, l'aisance que procure l'argent. Pierre Tillman nous dit encore « Je n'arrive pas à comprendre » sur une musique d'Ars Nova. J'ai aujourd'hui 49 ans et je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui peut pousser des gens qui n'y sont pas obligés à dépenser leur fric pour tenter de se payer à longueur d'année la collection complète des images du pouvoir. Nous écoutons André Laude avec Testament de Ravachol sur une musique de Sylvain Cassap. Nous n'habitons nulle part. Nous ne brisons de nos mains rouges de ressentiment que des squelettes de vent. Nous tournoyons dans un désert d'images diffusées par les invisibles ingénieurs du monde de la séparation permanente, retranchés dans les organismes planétaires planificateurs. Infatigable du spectacle. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'absence. Une brûlure qui ne cesse pas. Nous n'embrassons nulle bouche vraie. Nous parlons une langue de cendre. Nous touchons une réalité d'opérette. Nous n'avons jamais rendez-vous avec nous-mêmes. Nous nous tâtons encore et toujours. Nous errons dans un magma de signes froids. Nous traversons notre propre peau de fantôme. Le soleil du mensonge ne se couche jamais sur l'empire de notre néant, vécu atrocement au carrefour des nerfs. Nous n'avons ni visage, ni nom. Nous n'avons ni le temps, ni l'espace des yeux pour pleurer 32 dents. Totalement neuve pour mordre. Mais mordre où? Mais mordre quoi? de fond en comble toutes les chaînes autour desquelles s'articulent nos chairs, nos pensées d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elles cassent dans un hurrah de lumière de naissance multiple. Décrétons le refus global. Les jardins des délices tremblent et éclairent au-delà. La révolte met le feu aux poudres. Taillés, enfants aux yeux d'air et d'eau, les belles allumettes dans la forêt des légitimes soifs. Taillés, les belles allumettes pour que flambe le théâtre d'ombre universel. C'est l'histoire d'un type qui, quand elle était là, se plaignait qu'elle prenait toute la place et qu'elle ronflait. Mais maintenant, elle était partie. Et il avait toute la place dans le lit. C'est l'histoire d'un type qui n'était qu'un tas de viande, qui bouffait, qui dormait, qui pissait, qui chiait et qui cherchait à se reproduire. C'est l'histoire d'un type qui baissait les yeux et fixait un point du tapis. C'est l'histoire d'un type qui appartenait à cette race, groupe, famille, tribu, population, de gens qui croient pouvoir changer le monde dans lequel on vit. Il appelait ça sa participation au rêve collectif. C'est l'histoire d'un type qui avait l'air d'avoir bouilli dans une marmite de merde. De Pierre Silman encore, avec de l'argent, sur une musique de Isae Tomita. Le plombier est venu réparer la chasse d'eau qui fuyait. L'électricien est venu réparer la lampe de la salle de bain avec la douille cassée. Le garagiste a réparé la vieille voiture, vérifié l'huile et le gonflage des pneus. Les déménageurs ont emporté les meubles et les caisses de livres. On a mis plein de trucs dans la rue, devant chez nous, sur le trottoir. L'agence immobilière nous a loué un studio pour ma fille, aînée, Hélène. Mon père s'est porté caution et ça a marché. Le petit traiteur chinois de la gare de Lyon, qui ne comprend pas le français, mais qui sourit et dit oui, nous a vendu de la bouffe chinoise et nous l'a fait chauffer. Il nous a fait cadeau d'une bière à Tsingtao. Dans le nouvel appartement, le téléphone marche, il a sonné. Marie-Hélène a donné un gros pourboire à chacun des déménageurs. Et moi, j'ai donné un billet de 50 francs au jeune employé du garagiste qui m'a aidé à sortir les deux armoires sur le trottoir. Dans la rue, les gens faisaient la queue pour ramasser nos affaires. Alexandra est descendue louer une cassette vidéo, ce qui veut dire que le magnétoscope fonctionne. Bravo Alexandra, et surtout bravo à son copain qui a réussi à brancher le matos. Juliette, qui a 10 ans, a acheté 6 ou 7 peignes en plastique pour 10 francs. Et elle est très fière de son acquisition, même si l'un avait déjà une dent cassée. Marie-Hélène a décidé. Nous sommes trop fatigués pour conduire. On va prendre des couchettes et mettre la voiture sur le train. Avec de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait pas ? De Rissa Rossé, prière d'un bouzou sur des tambours touareg. Le charbon sort de chez moi. Mais je suis dans les ténèbres. L'uranium sort de chez moi. Mais je suis pauvre. L'air est une immense nappe phréatique. Mais j'ai soif. Chez moi, il y a d'immenses plaines, plaines fertiles, inexploitées. Chez moi, il y a deux axes routiers. Celui qui exporte l'uranium et celui qui exploite le charbon. Et vous voudriez que je me taise. De toute façon, je me tais. Puisque je suis un analphabète. Et patati, patata, que les bavards se taisent, que les braves meurent et que les lâches coopèrent. Pour la pérennité du système, des loups. Amen. C'est l'histoire d'un type qui voulait sa part de gâteau. Tout le monde veut sa part de gâteau. C'est l'histoire d'un type qui a été allongé sur le couvercle d'une benne à ordures, le regard perdu dans les étoiles. C'est l'histoire d'un type qui ne manquait ni de courage, ni de talent. Pourtant, les affaires étaient mauvaises. C'est l'histoire d'un type qui était englué dans une sorte de léthargie. Il avait des tas de choses à faire. Il n'y arrivait pas. C'est l'histoire d'un type qui traçait à la craie sur le plancher de son appartement la forme de son corps allongé, sans oublier la petite mare de sang recouverte de sable. Je vais donc vous parler de ces auteurs qui nous ont offert tous ces poèmes. De Gérald Godin, nous avons écouté « T'en souviens-tu, Godin ?» sur une musique de Jules. Gérald Godin est né en 1938 à Trois-Rivières, au Québec. Dès son enfance, il est bercé de poésie, cette fenêtre intime qu'il allait explorer toute sa vie. Godin a toujours accordé une grande importance à la langue, un mode d'expression qui, pour lui, devait être accessible à tous. Avec une conscience sociale aiguisée, Godin traite les thèmes de la souffrance et de l'amour, des déceptions et de la misère du peuple québécois. Reflet du quotidien, ses textes abordent ses propres drames juxtaposés à ceux de sa collectivité. De l'ensemble de ses réalisations se dégage en force une ironie mêlée de sensibilité, ainsi qu'un goût de vivre retentissant. Cette vitalité le conduira à mener de front de multiples activités, dont en particulier le journalisme qui l'amène à remplir des fonctions d'éditeur, de directeur de l'information et de directeur général intérimaire à Québec Presse, d'être chargé de cours en journalisme à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec, et aussi de rentrer en politique, où ses mandats de ministre se succèdent. Il est rare qu'un ministre nous livre autre chose que ses mémoires ou ses déboires, mais Gérald Godin, en plus d'être versé dans l'art d'écrire, était un homme reconnu pour son honnêteté, pour ses convictions et pour une passion qui transparaissait tant dans ses créations littéraires que dans ses actions politiques, où il s'est investi corps et âme dans l'intégration à la société québécoise des gens de différentes souches. Il était profondément convaincu que la diversité culturelle contribue à l'enrichissement et à l'ouverture d'esprit d'une nation. Il est décédé le 12 octobre 1994, après avoir lutté pendant 10 ans contre une tumeur au cerveau. Quelques titres, chansons très naïves, poèmes et cantos, nouveaux poèmes, les cantouques, liberté surveillée, sarzène, le meilleur condensé de l'œuvre poétique de Godin, demeure sans conteste, il ne demandait qu'à brûler. De Pierre Tillemant, nous avons écouté des extraits de « C'est l'histoire d'un type », Métro Bastille sur une musique de Ramona Panzini et Lirinaldo, Le Frigo, La Télé sur une musique de Anthony Pateras, Je n'arrive pas à comprendre sur une musique de Ars Nova, Avec de l'argent sur une musique de Isa et Tomita. Pierre Tillemant est né en 1944 à Salerne dans le Var. Il vit à Sète et à Paris. Il a la tête dans les mots, les mains sur les images, les pieds dans la réalité. Son esprit se balade comme il peut parmi tout ça. Il a la révolte fraternelle. Son désespoir est calme, son désir a de l'humour et de l'amour. Écrivain, artiste, poète de l'écriture, du langage et du corps. Il lit ses poèmes en public et participe à des festivals de poésie. Il fait des lectures-concerts en compagnie de musiciens. Il expose également ses œuvres dans des galeries, des musées, des centres d'art. Avec lui, les mots sortent du livre pour aller dans les couleurs, dans la matière, dans l'espace. Il a été un des fondateurs des revues Chorus et L'Évidence. Il a publié une trentaine de livres, dont Hôpital Silence, Les statues n'ont pas de poils, Tout comme unique, J'aime la période des papiers collés de Braque et Picasso, Robert Filliou, Nationalité poète, C'est de moi que je manque. De Pascal Perron, nous avons écouté Combien ça coûte sur une musique de Bruno Le Thor. André Chénet dit de lui, un enragé de poésie et qui n'en démord pas, de la révolte à l'amour sublime, de l'ange délivré à la bête traquée. Il passe au crible de ses démesures tout le répertoire de la poésie, avec cette obstination magistrale des grands aventuriers qui partent à leurs risques et périls vers des archipels qui n'ont d'irréel que le refus des autres à les imaginer, les rêver, les envisager. Pascal Perrault ne saurait se contenter d'une esthétique pour salon de beauté poétique. Il n'a de cesse de dénoncer les causes malfaisantes qui vident de leur substance des populations entières. Pascal Perrault croit à la rage des mots, car, dit-il, le consentement à l'inacceptable est aussi affaire de langue. C'est en châtrant les mots que l'on nous fait eunuque. Je veux la rage des mots. De Vénus Kourigata, nous avons écouté Nous étions sept, sur une musique de Andy Emler à l'orgue, Benat Acheri à la voix.
Née en 1937 à Baabda, près de Beyrouth, dans une famille catholique. Son père est un ancien moine devenu militaire. C'est lui qui transmet la langue française à ses enfants. Sa mère est d'origine modeste, paysanne, native de Bacheret, ville natale du grand poète et peintre Khalil Gibran. Vénus vivait avec sa famille à Beyrouth qu'elle n'aimait guère, ce pourquoi le Liban qu'elle décrira plus tard dans son œuvre est celui de Bacheret, de la vallée de Kadisha, et non pas celui de la capitale. Vénus s'installe à Paris à 35 ans, poète, romancière, critique littéraire, Vénus Kourigahata est l'un des plus grands noms de la littérature francophone contemporaine. Elle fait partie de plus d'une dizaine de jurys littéraires et son œuvre est traduite dans de nombreuses langues. Elle a publié une vingtaine de romans et autant de recueils poétiques. Elle a bâti au fil des ans une œuvre riche, alternant poésie et roman, qui a été couronnée de nombreux prix, le prix Apollinaire, le prix Mallarmé, le prix Jules Supervielle, le prix Baie des Anges, le grand prix de poésie de l'Académie française. Dernier titre paru, La Revenante, À quoi sert la neige, Les obscurcies, Cette pierre pour la femme adultère.
De Umberto à Cabal, nous avons écouté Et personne ne nous voit, suivi de Je ne sais pas, sur une musique de Brancusi. Umberto à Cabal, indien maya Quiché, est né en 1952 au Guatemala. Son histoire est à l'image des difficultés de survivance de son peuple. Berger, tisserand, déchargeur de camions, ouvrier dans les manufactures, études sommaires, éducation autodidacte. Après une époque d'humiliation, il est enfin reconnu de ses pairs et du public. Et en 1990, il peut enfin publier son premier livre, El Animalero. Aujourd'hui, Umberto Acabal est traduit en plusieurs langues et a reçu le prix El Quetzal de Oro, ainsi que le titre de professeur émérite, avec le droit d'enseigner la littérature dans toute l'Amérique centrale. De Henri Michaud, nous avons écouté Agir, je viens, sur une musique relecture de Eugène Cicero de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, par Eugène Cicero, Peter White, Charlie Antolini, et écouté Qu'il repose en révolte, sur une musique du lieutenant Caramel. Henri Michaud, ce grand voyageur, du dehors, du dedans. Quand Henri Michaud accepta de livrer en 1957 quelques renseignements sur 59 années d'existence et donc d'entrer tant soit peu dans le jeu de l'écriture autobiographique, ce fut pour rédiger par bribes une espèce de portrait réduit, en miettes, à la troisième personne. Je cite « Indifférence, inappétence, résistance, inintéressé, il bout de la vie, les jeux, les divertissements et la variation, le manger lui répugne, les odeurs, les contacts, sa moelle ne fait pas de sang, son sang n'est pas fou d'oxygène. » Christian Hubin dit de lui, Michaud, la précision dans le fugitif, l'évasion, l'infinitésimale, comme le fondement d'un ordre de l'incohérence, d'une herméneutique du chaos, le grand erratique intérieur, mais avec plan et relevé. De Lydie Salvert, nous avons écouté des extraits de Contre sur une musique de Chris Chanet et de Mogwai. Lydie Salvert est née en 1948 d'un couple de républicains espagnols exilés dans le sud de la France depuis la fin de la guerre d'Espagne. Son père est andalou, sa mère catalane. Elle passe son enfance près de Toulouse dans le milieu modeste d'une colonie de réfugiés espagnols. Sa langue maternelle étant l'espagnol, elle tombe cependant rapidement amoureuse de la langue de Molière et suit ses études de lettres à l'université de Toulouse. Une licence de lettres modernes en poche, Lydie Salvert s'inscrit à la faculté de médecine en 1969 et se spécialise en psychiatrie. Parallèlement à sa carrière de psychiatre, elle se met à publier des petits textes dans des revues littéraires d'Aix-en-Provence et de Marseille. Son premier roman, La Déclaration, est publié en 89. Son roman, La Compagnie des Spectres, a reçu le prix Novembre et a été élu meilleur livre de l'année par le magazine Lire. Puis paraît Portrait de l'écrivain en animal domestique, suivi de BW. Plusieurs textes de Lydie Salvert ont été adaptés pour le théâtre ou joués sous la forme de concert-lecture. De Francis Gyok, nous avons écouté Merci, sur une musique de Pierre Jodlowski. Dans la nuit du 12 au 13 mai 1965, Francis Gyok mettait fin à ses tourments. Il avait 31 ans et laissait derrière lui une œuvre intense et désespérée. L'enfance et l'adolescence de Francis Gyok, né à Presles, dans le Jura bernois, en 1934, ne laissait pas deviner les tragédies à venir. Hugues Richard, son contemporain et ami, le rappelle avec à propos. Qui pourrait se rendre compte, en s'immergeant dans ses poèmes et ses proses, de l'adolescent magnifique qu'il fut? Mais ce chatoyant personnage n'allait pas tarder à sombrer.
Solitude, anxiété, révolte. Francis Gueux ne parvient pas à trouver une place dans une société qu'il perçoit comme hostile. Il multiplie les petits boulots, passe quelque temps à Genève et à Lausanne, puis trouve un poste d'enseignant en Espagne. Le pays l'attire, il y découvre l'ennui et connaît une crise d'une violence inconnue. Suivront des années terribles, des séjours en hôpital psychiatrique, l'alcool, les médicaments, la douleur de vivre. En témoigne fragment d'un journal d'enfer, suite de notes emplies d'angoisse, de désespoir. De son vivant, Francis Gueux ne publia que deux brefs recueils, Parler seul et L'ombre et la nuit, restés confidentiels. La part la plus importante de son œuvre est parue après son suicide, grâce notamment à son ami Georges Aldas. L'ouvrage le plus important, Terre de dénuement, paraît en 1968. De Roger Bordier, nous avons écouté Partage des biens, sur une musique de Vincent Bergeron. Roger Bordier, né en 1923, rédacteur pour les revues spécialisées Art d'aujourd'hui et d'Europe, est un critique d'art et de littérature renommé, auteur d'essais comme L'art moderne et l'objet ou Le progrès, pour qui. Également à l'origine d'une œuvre romanesque importante, son travail connaît un succès considérable dans les années 1960. Ses premiers romans, La cinquième saison et surtout Les blés, lui valent un accueil élogieux des milieux littéraires. Le Tour de ville, paru en 1981, illustre son intérêt pour une littérature ancrée dans le présent ou l'histoire récente, soucieuse de comprendre et de traduire le monde moderne et industriel. Membre fondateur de la maison d'édition Le Temps des Cerises, Roger Bordier a constitué une œuvre teintée de poésie et de réalisme, marquée par un profond engagement social. De André Laude, nous avons écouté Testament de Ravachol sur une musique de Sylvain Cassap. André Laude est né en 1936 à Paris. Poète et journaliste français, il est le fils d'Olga Loison, de famille bretonne qui meurt prématurément en 1938, et de Ferdinand Laude, ancien mineur dans le Nord et d'origine occitane. On comprendra que son enfance ait été fortement marquée par la guerre. Il cesse ses études en 1953 et deux rencontres vont déterminer ses engagements futurs. Celle avec Serge Wellens le fait entrer dans l'univers de la poésie et de la petite édition. Celle avec Michel Donnet l'initie au communisme libertaire et le conduira aux combats politiques qui seront les siens. La guerre d'Algérie sera le premier de cela. Il se partage entre voyage et écriture, poésie et militantisme. Le reste de son existence n'est qu'une suite de dates de rencontres littéraires, de collaborations à des journaux et des revues, de publications. André Laude n'avait qu'une seule passion, la poésie. Il dit « L'activité poétique a toujours été pour moi liée à l'expérience vécue. J'ai toujours eu pour objectif de rapprocher l'expérience vécue du texte écrit. Je ne conçois pas une poésie qui soit seulement le produit d'une activité mentale. » Elle est le produit d'une activité générale qui met en cause l'esprit, l'essence, le sexe, la peau et aussi l'histoire de l'individu, l'histoire collective. Toute mon expérience poétique s'articule autour de cette perspective. La poésie doit changer la vie. André Laude est mort à Paris le 24 juin 1995 durant le 13e marché de la poésie qui se tient place Saint-Sulpice. Quelques titres. Entre le vide et l'illumination, dans ces ruines campe un homme blanc, Occitanie, premier cahier de revendication, itinéraire pour une libération, le bleu de la nuit crie au secours, mémoire fixe, feu, crise et diamants, journal d'un voyage au Maroc, liberté couleur d'homme, essai d'autobiographie fantasmée sur la terre et au ciel, avec figures et masques. De Rissa Rossé, nous avons écouté Prière d'un bouzou sur des tambours touareg. Rissa Rossé, arrêté lors de la rébellion des années 1990, à sa libération, il devient compagnon de route et de combat du leader Touareg, Manu Dayak. Il est aujourd'hui la conscience rebelle du peuple Touareg, par-delà les frontières figées par la colonisation. Il vit dans le nord Niger, où, infirmier, responsable du centre de santé de Tchirozérine, il lutte contre la malnutrition, le paludisme, à main nue, dit-il, sans médicaments ni infrastructures. Son parcours est une itinérance entre poésie et action politique. Une très belle quête de liberté et de justice dans le contexte de l'extrême pauvreté du Sahel. Voilà, Annie Mendieta vous souhaite une très belle nuit de pleine lune.
Poète, vos papiers.
Autant demander à un chien sa carte bancaire.